Chapitre 5. Maintenant, le père Pamphile avait 75 ans. Malgré ce grand âge, et bien que son corps amaigri et noueux se courbât vers la terre, il demeurait robuste et plein de vie. La même foi illuminait ses yeux aux paupières tombantes. Le même enthousiasme poussait ses membres raidis vers les conquêtes chimériques. Il souriait comme un petit enfant. Une année au Raynaud, où il travaillait plus qu'à manœuvre du matin au soir, l'année d'après à l'étranger où il quêtait, jamais il ne prenait un instant de repos. Les terrassements pour les fondations de la chapelle avaient été enfin commencés, puis abandonnés faute d'argent. Des 500 000 francs, tout avait passé en plan d'architecte, en mémoire préparatoire d'entrepreneur, en achat de matériaux et d'outillages, sans cesse perdu ou volé, sans cesse renouvelé. Mais le vieillard ne désespérait pas. Lorsqu'il revenait de ses longues tournées, la poche garnie, il achetait encore. Encore, il conférait avec les architectes et les entrepreneurs, et c'étaient les mêmes stations, les mêmes comédies. On mettrait, on cubait, on déroulait les mêmes papiers jaunis, on s'exaltait au même projet. Le père Pamphile, son livre à la main, recommençait les mêmes explications. « Pardon, messieurs, nous ne créons pas, nous reconstituons. Là était le maître autel, etc. » Il n'avait rien changé à son régime. On lui apportait sa soupe le matin et le soir son morceau de pain. Puis, la nuit venue, il montait à la chambre du petit pavillon, devenu un taudis immonde, tapissé d'ordures, planchéié de fumier. Après une prière devant le crucifix, il s'étendait sur sa couchette de bois, et tandis que le vent soulevait sa barbe d'un frémissement glacé, les chats-huants, qui ne s'effrayaient plus, perchés sur les poutres dans l'angle du toit, le regardaient dormir de leurs grands yeux fixes et le couvraient de leurs fientes. L'abbé Jules connaissait le père Pamphile, qui était en rapport fréquent avec l'évêché, et comme tout le monde, il le prenait pour une vieille canaille, conscient des bassesses qu'il commettait. Avec la facilité que possèdent tous les optimistes d'improviser des plans hardis et scélérats sans se donner la peine de les approfondir, l'abbé, ce matin-là, en pensant au père Pamphile, avait, dans l'espace d'une minute, ébauché vaguement des projets de chantage admirables que son autorité reconnue, la terreur qu'il inspirait, ne pouvait que mener à bien. Aussi était-il parti à la hâte pour le Raynaud, ses idées encore incertaines et brouillées, mais s'en remettant au hasard du soin de les débrouiller le moment venu. Après avoir longé des constructions basses, tellement en ruine qu'il eût été impossible d'en préciser la nature, après avoir traversé deux petits cours où se voyaient encore les arcades brisées d'un cloître, où le terrain détrempé par la pluie, gâché par les chariots, n'était qu'une mare de boue à la surface de laquelle nageaient des gravats, des débris de toutes sortes, après avoir passé sous un porche qu'étayaient des madriers pourrissants, l'abbé déboucha dans une cour immense, fermée par des bâtiments quadrilatères, inégaux de hauteur, bizarrement déchiquetés sur le ciel, les uns éventrés et pareils à des éboulements de roc, les autres tapissés de mousse, si couverts de végétation emmêlée et verdissante qu'on y dit plutôt un coin de forêt sauvage. D'abord, il ne vit rien qu'un chaos de pierres de taille, de bois en grume, de poutres à peine équarries, d'outils épars, et au-dessus de ces chaos, l'armature commencée d'un échafaudage, deux grues qui profilaient sur le fond crayeux de la cour leurs longs coups de bête décharnés. Toute la détresse immobile et navrante d'un chantier abandonné en plein travail. Puis il crut entendre un bruit sourd comme le bruit d'une pioche creusant la terre. Guidé par le bruit, il aperçut à quelques mètres de l'échafaudage, dans un espace libre de forme hexagonale et fraîchement terrassé, il aperçut la pioche qui sortait du sol et qui y rentrait par courts intervalles réguliers, sans qu'il lui fût possible de distinguer les bras qui la mouvaient. Il se dirigea vers cet endroit, se perdant dans le dédale des tas de moellons et des blocs de pierre, franchissant des lacs de chaux, enjambant des troncs d'arbres, et il finit par découvrir, au fond d'une tranchée, le père Pamphile qui, les pieds dans l'eau, le visage ruisselant et très rouge, s'acharnait à piocher. « Bonjour, mon père !» dit l'abbé. Le père Pamphile leva la tête et reconnaissant l'abbé. « Ah, c'est vous, monsieur l'abbé !» fit-il joyeux et surpris. « Ah, vous venez visiter mes travaux. C'est très gentil, vous le voyez, ça marche. Et qu'est-ce que vous faites là, mon père, avec votre pioche ?»« Ah, je creuse, monsieur l'abbé, je creuse les fondations. Ah, le temps est bien mauvais. » Le père Pamphile lâcha la pioche, essuya sa longue barbe étoilée de boue, et rabattit sur ses jambes la robe qu'il avait nouée autour de ses reins. « Bien mauvais !» répéta-t-il. « Eh, c'est cette eau qui me gagne. Oh, donnez-moi donc la main, que je remonte. Oh, c'est très gentil à vous d'être venu. Seulement, je ne puis vous recevoir dans ma chambre. Figurez-vous qu'hier on m'a volé mon échelle. Et monseigneur, comment va-t-il ?» Tout en parlant, aidé de l'abbé, il avait quitté son trou et sauté, d'un mouvement leste, sur la cour. Après les politesses échangées, l'abbé demanda « Alors, c'est votre église, ça ?» Le vieillard eut un rengorgement de fierté et désignant l'espace hexagonal, autrefois couvert de ronces, aujourd'hui couvert de terre remuée, et qu'entourait un mince cordeau tendu sur des piquets, il répondit « Tout ça, oui, c'est mon église, oui, mon cher monsieur l'abbé, tout ça. Et qu'est-ce qui aurait dit que je l'eusse rebâti, hein ?»« Rebâti, rebâti !» fit Jules, qui s'imagina que le Trinitaire voulait se moquer de lui. « Dites donc, voilà 40 ans que vous la bâtissez. » « Et il n'y a rien ?»« Rien ?» s'écria le père Pamphile, embrassant d'un geste grandiose et furibond toute la cour encombrée de matériaux. « Eh bien, et ça ? Et tout ça, qu'est-ce que c'est alors ? C'est-à-dire que le plus difficile est fait, maintenant, et qu'à construire. Ben, si nous allions à l'abri quelque part ?» Jules refusa et s'assit sur un bloc de granit. Sans insister davantage, le moine s'accroupit sur un morceau de caillou en face de lui. Et tous les deux, ils se regardèrent. Le vent soufflait plus fort, accélérait la pluie qui hachait le ciel de raies obliques et fouettantes. De temps en temps, des pierres détachées des murailles tombaient sur le sol avec un bruit mou et des éclats d'ardoises volaient dans l'air. « Êtes-vous en fond ?» demanda brusquement l'abbé. « Bon, je suis toujours en fond, » répondit le père Pamphile. « Justement, il y a 8 jours, je suis revenu de Hongrie. Le voyage a été bon. Ah, grand, ah, c'est drôle, figurez-vous que j'étais descendu chez le primat. Oh, un homme très gai, très farceur et très généreux. Il me disait, « Mon père, chantez-moi la Marseillaise et je vous donnerai 100 florins. » Oh, je chantais la Marseillaise comme un perdu, et à chaque coup, le primat me donnait 100 florins. Oh, j'ai chanté 12 fois. Et il fredonna. Nous entrerons dans la carie. Vous savez donc la Marseillaise ? Interrogea l'abbé, qui ne put réprimer un sourire. Oh, qu'est-ce que vous voulez ? Repartit le bonhomme en hochant la tête d'un air résigné. Dans notre métier. Il faut savoir un peu de tout. On a souvent affaire à des gens si originaux. Et si tenez l'année prochaine, je retourne en Orient. C'est une autre histoire. Dans ce pays-là, ils se moquent de la Marseillaise. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise comment on s'habille, la dernière mode de Paris. Eh bien, je leur dis à peu près comme ça me vient, et ils sont contents. L'abbé n'écoutait plus et réfléchissait. Depuis qu'il se trouvait en face de l'obstacle à vaincre, toute son ardeur, toute sa fièvre d'impatience lui était revenue. Ce n'est plus qu'il mêla encore à la réussite de son entreprise l'idée initiale de la bibliothèque. Il n'y associait désormais aucun projet. Il n'avait en vue la satisfaction d'aucune passion nouvelle. Il agissait maintenant pour le plaisir. Même au milieu des impressions qui se succédaient, rapides et contraires, en son cerveau de sensitif, et qui exaspéraient ses nerfs, il n'était pas loin de croire qu'il était un instrument de la justice humaine et de la colère divine contre un homme bravant les lois sociales et outrageant la dignité de l'Église. Ce qui, dans le principe, n'avait été qu'un calcul honteux, un chantage ignoble, se transformait en dilettantisme, et le dilettantisme lui-même s'élargissait jusqu'à la foi, s'ennoblissait jusqu'à la mission. Jules pensa qu'il fallait couper court au bavardage du moine, en arriver au fait brutalement, au lieu de se perdre dans des finasseries qui avaient chance de ne pas réussir avec un vieux rôdeur de route comme était le père Pamphile. Mieux valait l'étonner, l'étourdir d'un coup de massue, frapper fort et à la bonne place. Il prit un air sévère et dit « Je ne suis pas venu ici pour écouter vos balivernes de mon révérend père, et je vous prie de m'accorder 2 minutes d'attention. J'ai une œuvre, une grande œuvre, pour laquelle il me faut beaucoup d'argent. Je tiens d'abord à rassurer votre conscience. Il ne s'agit point d'aller faire la noce à l'étranger sous prétexte de bâtir une église, non. Il s'agit d'autre chose, de quelque chose de très beau, de très grand, de très chrétien. Si je vous disais de quoi il s'agit, il est probable que vous ne comprendriez point. Je vous le répète, il me faut de l'argent. Vous en avez, donnez-moi. Mais je ne peux pas, répondit simplement le père Pamphile, dont la physionomie avait passé de l'insouciante gaieté du bohème à la gravité rêveuse de l'apôtre. L'abbé se leva, poussé par une soudaine colère. Il avait compté sur une stupéfaction, une secousse, un écrasement, enfin sur une savez-quoi de formidable. Et voilà que le bonhomme demeurait calme et qu'il avait dit « Je ne peux pas » d'un ton tranquille, inflexible, où l'on sentait une résolution définitive. Il se contint et regarda le moine. Quelques cailloux avaient glissé sous ses reins. Il se recala doucement, les jambes plus hautes, et des gouttes d'eau tremblaient au poil de sa barbe. « Vous ne pouvez pas ?» grommela l'abbé. « Non !»« Faites bien attention, vous ne pouvez pas !»« Non ! Si vous avez une œuvre aimée de Dieu, faites comme moi, les routes sont libres !» Jules s'exalta. « Mais croyez-vous donc que je sois un vagabond, un détrousseur de bourse, un rat de bordel ?»« Vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis. Mais pourquoi vous fâchez-vous ? » ?»« Encore une fois, vous ne pouvez pas. »« Non, je ne peux pas. » L'abbé brandit son poing dans le vide. « Eh bien, je vous interdirai de mendier dans le diocèse. » Les gendarmes vous mettront la main au collet et vous jetteront en prison. Bon, fit le père Pamphile, en secouant la tête mélancoliquement. « Non, Dieu sait, je suis brûlé, on ne me donne plus rien. » Quant à la prison, oh, de méchantes gens m'ayant arrêté bien des fois, j'y ai dormi. Et mieux vaut dormir dans une prison que sur les berges humides des chemins. Eh bien, j'écrirai à Rome, je vous ferai chasser d'ici, je vous dénoncerai à votre général, au pape. Je dirai qui vous êtes, toutes vos histoires, toutes vos saletés, tous vos crimes. Je vous dénoncerai, entendez-vous, vieux va-du-pied. Bon, le général me connaît, le pape me connaît. Et puis il y a quelqu'un de plus grand qui me connaît mieux encore. L'index levé, il montra le ciel et ajouta, « C'est Dieu ! Oh, je n'ai point peur. Oh, il faudrait que vous vous rendiez compte de tout l'argent que vous avez gaspillé, que vous avez volé. Il faudra... L'abbé écumait. Ses yeux agrandis, tordus comme dans une attaque d'épilepsie, découvraient le blanc de leur globe strié de veines pourpres. Sur ses lèvres se pressaient, se précipitaient, se crispaient des jurons, des mots inarticulés qui se perdaient dans un sifflement, dans un gargouillement de salive. Enfin, il fut pris d'une canne de toux qui lui brisa la gorge et lui déchira la poitrine. Plié en deux, la face violette, les veines tendues à se rompre sur le col étiré, il semblait vomir la vie dans un épouvantable hoquet. La crise calmée, le moine lui dit, sans bouger de sa place, d'une voix très douce, « Pourquoi vous faire mal ainsi? Que me reprochez-vous? De ne point vous donner l'argent de mes quêtes, de mes prières, de mes souffrances? Mais je ne peux pas. Tenez, souvent des pauvres qui étaient nus et qui avaient faim, de lamentables créatures de Dieu, m'ont supplié à genoux. Les yeux pleins de larmes, je les ai repoussés. Je ne peux pas. Cet argent n'est pas à moi. Il est à elle, la radieuse, la sublime épouse de mon cœur, mais je n'en puis rien distraire. Même pour sauver quelqu'un de la mort, de l'enfer, non, je ne le ferai pas. » La pluie chantait sur les flaques d'eau, le vent hurlait tout autour sur les ruines ébranlées, et dans l'air triste et mouillé, l'échafaudage balançait sa grêle silhouette toute grise. Le trinitaire poursuivit. « Vous m'avez insulté tout à l'heure, et mon Dieu, comme tant de gens l'ont fait qui ne savaient pas, je vous pardonne. Si j'ai deux sous pour manger, un pan de mur pour m'abriter, une planche pour dormir, un peu de sang chaud dans ces vieilles veines, un peu de muscle robuste sur ces vieux os, ben je suis content. Croyez-vous donc que je tienne à l'argent ? Écoutez, mon cher abbé, le jour où mon église sera bâtie, revenez, et ce que vous me demanderez, je vous le donnerai. Sur le repos de mon âme, je vous le jure, mais d'ici là, non, 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 je ne peux pas. » Jules restait abasourdi devant le moine. Et véritablement, il ne comprenait plus. Était-ce un dément sincère ? Se moquait-il de lui ? Il l'ignorait. Dans tous les cas, il n'avait pas prévu cette inconcevable folie ou cette ironie audacieuse. Il en était tout déconcerté. Qui avait-il donc derrière ce masque ravagé qu'il avait vu par deux fois se transfigurer, s'immatérialiser presque sous le rayonnement d'une beauté inconnue et mystérieuse. Malgré la colère qui grondait encore en lui, le moine l'intimidait. Et il ne savait ce qu'il éprouvait, de la pitié, de l'admiration ou du mépris. Du fond de son être, une voix lui disait « Mais agenouille-toi, c'est un saint !» Une autre voix lui disait « Mais non, insulte-le, c'est un bandit !» Un obscur instinct l'avertissait que la première voix avait raison. Pourtant, ce fut à l'autre qu'il obéit, et frappant la terre du pied, il s'écria « Oh, tout ça, c'est des mots, prenez donc pour l'imbécile. Vous savez très bien que votre église, c'est de la blague, et que vous ne bâtirez jamais. » Mais le père Pamphile s'était dressé tout droit, une flamme dans ses yeux, si grand, si beau, si terrible, que l'abbé recula, dompté par ce regard dont il ne pouvait soutenir l'extraordinaire et surhumaine clarté. Il crut qu'un archange marchait vers lui, le dieu farouche des solitudes mortes. Et il allait tomber à genoux, demander grâce, quand le moine, s'approchant de lui, le secoua rudement par les épaules. « Homme incrédule, dit-il, mauvais prêtre, ne blasphème pas, regarde et entends-moi. Quand je devrai tout seul tailler ces blocs et les porter sur ma vieille échine, quand je devrai hisser ces poutres, forger ces fers, soulever à bout de bras ces voûtes, quand je devrai tout seul, oui, tout seul, l'étreindre contre ma poitrine, l'enlever de terre et la planter droit, là tu entends bien, pauvre fou, oh là là, je la bâtirai, adieu !» Le père Pamphile fit quelques pas, s'arrêta au bord du trou qu'il était en train de creuser lorsque Jules était venu le surprendre, et retroussant sa robe, il se laissa glisser au fond. Pendant quelques minutes, l'abbé demeura les pieds dans la boue, immobile et songeur. « C'est pas un bandit, se dit-il. C'est quelqu'un de pire, un poète !» Tandis que la pioche reprenait son mouvement rythmique, apparaissait au-dessus du sol et disparaissait fouillant la terre. En proie à un malaise vague, il aurait voulu retourner auprès du père Pamphile, lui parler, s'humilier. Une sorte de bas orgueil et la timidité qui est au fond de presque toutes les natures violentes l'en empêchèrent. Très impressionné, il partit. De nouveau, il s'engagea dans le dédale des matériaux, retraversa les deux cours boueuses, longea les ruines, et tout cela lui parut plein de majesté. Les choses, en harmonie avec l'état de son âme, revêtaient sous leur tristesse infinie des aspects de mystère physique et de grandeur morale qui le troublaient étrangement. Une vie qu'il ne connaissait pas, et devant laquelle il se sentait si petit, si laid, si misérablement lâche, si complètement indigne, une vie à laquelle il n'atteindrait jamais, ouvrait par les fentes des murailles de larges horizons insoupçonnés, des espaces fleuris de fleurs de rêve, de belles fleurs au-dessus desquelles voltigeaient des âmes d'enfants, des âmes de vieillards, des âmes de pauvres, de belles fleurs qui berçaient de toutes petites âmes mortes au fond de leurs calices parfumés. Durant la route, une multitude d'idées confuses, sans lien direct avec ce qu'il avait vu et entendu au Hainaut, se heurtèrent dans sa tête. Mais toutes elles le ramenaient obstinément au père Pamphile, et du père Pamphile au miracle des religions d'amour qui mettent tant de joie dans la souffrance, tant de sagesse dans la folie, tant de grandeur dans l'avilissement, elle le ramenait aussi à la douloureuse constatation de sa propre déchéance. Il avait beau chercher dans sa vie, depuis le jour où la conscience s'était éveillée en lui, il ne retrouvait que des viletés et des hontes, avec de courtes échappées, de fugitives aspirations vers le bien, dont le seul résultat était de rendre ses rechutes plus lourdes et plus irréparables. aucune foi, aucun amour, aucune passion même, mais des instincts furieux de bête, des manies de déformation intellectuelle, et avec tout cela la sensation d'un vide intraversable, l'immense dégoût de vivre, l'immense effroi de mourir. Oh oui, de mourir. Car l'éducation chrétienne de son enfance, les accoutumances de son sacerdoce, plus fortes que ses doutes et ses impiétés, lui faisaient considérer le terrible au-delà comme une éternité de torture et d'épouvantement. L'abbé marchait lentement, le dos incliné sous le poids d'un invisible fardeau, le regard baissé vers le sol, où des flaques enfonçaient, en la reflétant, la changeante image des nuées ralenties. Le vent s'était calmé, la pluie n'était plus qu'une bruine légère qui allait se dissipant, et dans le ciel, éclairé d'une lumière plus blanche à l'horizon, les nuages déchirés laissaient apercevoir de ci de là, par d'étroits interstices, quelques morceaux de sombre azur. Peu à peu, la campagne plus verte sortait des brumes célestes qui noyaient les contours et les ondulations du terrain sous une enveloppe de buée bleuissante. Et sur le fond des coteaux, d'un violet sourd, réveillé par les taches solaires et claires des maisons éparses, les aules des prairies et les peupliers hauts et branchés montaient, semblables à de menues et tremblantes colonnes de fumée rose. Au sommet de la côte, d'où l'on voit brusquement à la ville et ses trois clochers, l'abbé pressa le pas. C'était un samedi, et les cloches tintaient, se répondaient d'un clocher à l'autre, annonçant la venue du jour sacré. Elles avaient leur voix de fête, leur voix joyeuse, celle qui chante le repos béni du travailleur et le bourdon de la cathédrale, dominant de sa grosse voix les autres voix plus grêles, allait porter la bonne nouvelle jusque dans les lointains de la vallée. À les écouter qui lui arrivaient assourdis par l'espace et si douce, Jules éprouva une émotion délicieuse dont il eût été incapable d'expliquer la nature et la cause. Ses nerfs se détendirent, son cœur se fondit dans un attendrissement et, sans secousse, sans souffrance, les larmes jaillirent de ses yeux. Les cloches tintaient, tintaient, et Jules pleurait, pleurait. Et tandis qu'il pleurait et que tintaient les cloches, près de lui passa une pauvre femme hâve, décharnée, à la face couleur de pierre. Vêtue de haillons sordides, les pieds nus, elle tirait une voiture où deux enfants dans la paille dormaient, livides et flétris. « La charité, monsieur l'abbé, dit-elle. » De son porte-monnaie, l'abbé tira 2 louis d'or qu'il mit dans la main de la pauvresse. « Tenez, fit-il, mais c'est pas moi qui vous donne. C'est Monseigneur l'évêque. Priez pour lui, priez pour moi. Soyez heureuse quelques jours. » Les cloches s'étaient tues lorsqu'il franchit la porte de l'évêché, mais il en gardait encore la vibration douce dans ses oreilles et dans son cœur. Rentré dans sa chambre, il se prosterna devant une image du Christ et se frappant la poitrine, il implora « Mon Dieu, ayez pitié de moi, pardonnez-moi, secourez-moi. » Les mains jointes, les yeux levés vers l'image, il demeura en prière jusqu'au soir. Le carême approchait. Jules ne changeait plus à sa bibliothèque, ni au père Pamphile, ni à la mort, ni à la vertu. Les émotions ressenties à son retour du Raynaud s'étaient vite envolées, et plus fantaisiste, plus tyrannique que jamais, il avait repris la direction des affaires du diocèse. On revit son ombre noire et tourmentée rôder sur la terrasse aux heures du crépuscule. Les prêtres, qui peu à peu, en l'absence du chien de garde, s'étaient remis à danser la soutane en l'air, heureux d'une liberté qu'ils croyaient éternelle, recommencèrent à trembler, à s'observer, à se fuir. Autour des petits clochers de village, la terreur de nouveau régna. Quant à l'évêque, il était dans les transes, non point à cause de la rentrée bruyante de son secrétaire, qui le débarrassait plutôt d'un trop lourd fardeau. Mais l'échéance arrivait, l'échéance fatale du mandement. Or, il n'avait rien à dire, ne voulait rien dire, ne pouvait rien dire. Cependant, il fallait s'exécuter coûte que coûte. Où trouver des phrases assez insignifiantes, des mots assez effacés, pour que les pages qu'il allait écrire équivalussent à des pages blanches et que tout le monde fût content. C'était bien difficile, aujourd'hui que les journaux avaient la manie de tout éplucher et de donner aux mots les plus simples, aux phrases les plus ternes, des sens terribles, des interprétations hardies qu'ils n'avaient point. Voilà, hein, se disait-il après de longues et pénibles réflexions, voilà ce que je puis faire. Oh, je vais recommander aux fidèles de se bien conduire, d'aller à la messe, à confesse, d'observer strictement le jeûne, d'être en un mot de bon catholique, afin que Dieu écarte de le péché, la grêle, l'incendie, la maladie. Bon, ensuite, je montrerai que par la foi, oh non, je ne montrerai rien. Il faut rien montrer. Et je terminerai, soit par la paraphrase d'un évangile quelconque, soit par une invocation à celui de qui nous viennent toutes choses, qui nous accorde le pain, le vin, etc., etc., et la force de supporter les douleurs de la vie. Bon, cela ne me paraît pas exagéré. Je ne parlerai ni de sa sainteté, parce qu'on me reprochait d'être ultramontain, ni de l'empereur, car on m'accuserait d'être libéral. Parti de cette idée, il avait déjà une écriture sans cesse raturée, noirci plus de 50 feuillets de papier. À mesure qu'il les relisait, chaque mot lui faisait dresser l'oreille, et il déchirait l'un après l'autre les feuillets commencés. Et le pauvre prélat suait, soufflait, soupirait, se désolait. Justement, un matin, l'abbé Jules, très dispos et de bonne humeur, demanda à l'évêque « Pensez-vous à votre mandement, monseigneur, ou ainsi le carême ?»« Oh, j'y pense, certainement j'y pense, » répondit le vieillard avec une mine effrayée. « Ah, quelle terrible chose !»« Pourquoi terrible ?» interrogea l'abbé. « Mais mon cher enfant, terrible à cause des responsabilités, des ménagements. » Dans la situation que j'occupe, une situation de paix, de concorde, de réconciliation, il faut tant de prudence, ne froisser personne. Tout cela est d'une délicatesse. L'abbé sembla prendre un vif intérêt aux embarras de son évêque. Sans doute, fit-il, c'est très délicat. « Voulez-vous que nous en causions un peu ?»« Oh, je ne demande pas mieux, » balbutia l'évêque qui ne put dissimuler une grande inquiétude. « Mais vous êtes bien ardent, mon cher abbé. Les jeunes gens ne voient pas les choses comme les vieillards. Ils vont, et puis, tandis que, voilà. » Il balançait la tête d'un air grave. son front se plissait. Ses lèvres, collées l'une contre l'autre, laissaient échapper les petits claquements brefs et clairs. L'abbé répondit d'une voix onctueuse, en s'inclinant respectueusement. « Aussi, bon seigneur, ne me permettrai-je pas de vous donner un conseil ? Je tiens seulement à vous répéter ce qui se dit de vous dans le monde catholique. » L'évêque eut un soubresaut. Ses yeux étaient devenus tout ronds, effarés. « On dit quelque chose de moi dans le monde catholique, et que dit-on ? D'abord, il n'y a qu'une voie pour approuver la façon dont vous administrez le diocèse. On fait de votre piété, de votre charité, de votre justice les plus grands éloges. Seulement, on se plaint que dans certaines occasions graves, vous ne vous affirmiez pas assez. On trouve par exemple vos mandements un peu gris, un peu fuyants. Ce n'est pas enfin ce qu'on attend de votre grandeur. » L'évêque s'agitait nerveusement sur son fauteuil. « Ce qu'on attend de ma grandeur, ce qu'on attend, mais je ne puis cependant mettre tout à feu et à sang, voyons. C'est pas dans mon rôle, je ne suis pas un espadassin. Mais, monseigneur, on ne vous demande rien de pareil, » reprit l'abbé, qui fit un geste de douce protestation. « On voudrait une plus grande fermeté, une autorité plus hautaine dans vos actes publics, plus de caractère, plus de flamme. C'est bien différent. » S'exaltant peu à peu, et se prenant lui-même comme un comédien au propre piège de sa mystification, il continua sur un ton enthousiaste, auquel l'émotion d'une chose véritablement ressentie donnait des accents de sincérité. « On voudrait qu'en face de la philosophie athée qui monte, déborde, s'installe dans les chaires officielles, ouvertement protégées, payées par le gouvernement, en face des attaques furieuses, multipliées contre l'Église sainte, on voudrait qu'une voix s'élevât, vengeresse et consolatrice, tout ensemble, le cri de révolte et d'espérance d'un grand chrétien. Les temps sont mauvais, monseigneur. De toutes parts, la société craque, la religion s'effondre, tout se désagrège et pourrit. En haut, sur le trône, l'orgie étalée effrontément, l'orgie légale. Et en bas, la bête affamée qui hurle, impatiente de sang. Partout la déroute, l'affolement, le vertige du sauve-qui-peut. Des générations abominables se préparent, qui, si l'on y met bon ordre, iront déclouer sur les calvaires le corps du Christ et transformeront en banque ou bien en lieu de débauche nos églises découronnées du symbole rédempteur. Vous avez charge d'âme, et les âmes ont besoin d'être soutenues dans la foi, encouragés dans la lutte, rassurés dans le danger. Il n'est pas bon qu'on se désintéresse de leur destinée morale. Et c'est une désertion dont Dieu vous demandera compte que de parler de paix et de concorde quand la guerre est déclarée, que l'ennemi est sur nous et qu'il nous harcèle. Voilà ce qu'on dit dans le monde catholique. On dit encore « Mais, sapristi, je vois pas ça du tout. » interrompit l'évêque, qui avait écouté, bouche béante d'étonnement, la violente sortie de l'abbé. « Mais ces gens-là sont fous. Mais de tout temps, il y a eu des braves gens et des mauvaises gens. Il en sera toujours ainsi. Que puis-je faire à cela? Ce n'est pas moi qui ai créé le monde. Voyons, dites-moi, ai-je créé le monde ?» Jules poursuivit d'une voix plus âpre et mordante. « Oh, je ne juge pas, monseigneur, je répète. On dit encore que cela peut être agréable de vivre dans un palais, d'y être bien nourri, bien vêtu, bien au chaud, de cultiver des fleurs, de rimer des vers badins, de recevoir des hommages et de bénir des passants. On dit que c'est facile, d'écarter avec soin toutes les responsabilités qui menacent le repos, troublent les digestions et les sommeils, de fermer les yeux pour ne rien voir de ce qui chagrine, de se boucher les oreilles pour ne rien entendre de ce qui supplie. Mais on dit aussi que cela n'est ni beau, ni honnête, ni chrétien, que cela ressemble fort à la trahison d'un chef qui, le jour de la bataille, abandonnerait ses soldats et les laisserait mourir sans leur porter secours. On dit encore que pour agir ainsi, il faut avoir des raisons secrètes. On dit encore... On dit des bêtises !» s'écria l'évêque, qui très pâle, le visage égaré, se leva de son siège et, tournant le dos à l'abbé, marcha dans le cabinet avec agitation. Mais bientôt, il craignit de s'être montré trop vif. Il ne voulut pas rester sur ce mot et sur cet audacieux geste susceptible de déchaîner chez l'abbé une de ces terribles colères comme il en avait tant essuyé. Et, calmé tout d'un coup, il revint près de lui. « Oui, mon cher enfant, réfléchissez, vous me parlez de l'empereur. Mais qu'est-ce que l'empereur a de commun avec un mandement de carême ?»« Tout le mal dont nous souffrons vient de lui. » Toute l'impiété, toute la pourriture dont nous mourons viennent de lui, sous ses apparences hypocrites d'amis de l'Église, sous l'insultante protection dont il fait semblant de nous couvrir. Il est le grand agent de destruction, le... Oh, ta, 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 mais qu'en savez-vous? Je le sais, fit l'abbé d'un ton net, tranchant, qui n'admettait pas de réplique. Alors le prélat, découragé, se laissa tomber dans son fauteuil. Tout l'effort dont il était capable, il l'avait donné. Sa résistance faiblissait. Il sentait qu'il ne lui était pas possible d'aller au-delà. Les paroles de Jules le troublaient aussi dans sa conscience. Il comprenait la justice de ses reproches, dont il n'était pas en état de discerner l'exagération sous la sonorité des phrases prud'homesques et déclamatoires. Pourtant, il ne se rendit point, il tenta de lutter encore. « Mon cher enfant, gémit-il, voyez donc dans quelle fausse situation l'on me mettrait. L'empereur, mais c'est lui qui m'a nommé. Et puis, j'illumine au 15 août. » Oh, Monseigneur, soupira Jules tristement. Les grands saints, les grands martyrs, ceux-là même que vous honorez, ceux dont vous relisez chaque jour la sublime histoire, ne parlez pas comme vous faites. C'est sur les marches souillées des trônes qu'ils allaient porter la parole de vérité. C'est au milieu des foules hostiles qu'ils confessaient leur foi. C'est à la face des tyrans qu'ils poussaient le cri d'anathème. L'évêque pensa, c'était des insurgés que vos saints. Mais il n'osa point exprimer cette irrespectueuse opinion, et il regarda l'abbé de coin, qui se taisait. Celui-ci, debout, la tête haute, les yeux noyés d'extase, la bouche encore frémissante d'imprécation, ressemblait à un prophète. Et véritablement, à cette minute précise, oubliant la comédie qu'il était venu jouer à l'évêque, c'était un prophète. Tout un monde mystique et visionnaire remuait en lui. Comme Isaïe, il se fut fait scier en deux le sourire aux lèvres. Il eut marché au martyr avec ivresse. Il se retira lentement, laissant un grand trouble dans l'âme du prélat. Sans se lasser jamais, Jules revint à la charge. Il avait conservé son masque inspiré, mais ce n'était plus qu'un masque couvrant le ricanement du mystificateur. Chaque jour, il apportait de nouveaux arguments, lançait de nouvelles menaces, et l'évêque, obsédé, tyrannisé, mis à la torture par cet impitoyable bourreau, cédait peu à peu sur tous les points, pourvu qu'il ne fût pas question de l'empereur dans le mandement, et il ne voulait point qu'on touchât à l'empereur, il ne le voulait point. Ses dernières forces se concentraient sur ce but unique. Sans cesse, il répétait « Ah, cela, non, non, jamais, il m'a nommé !» Et puis, il y a des ordonnances inflexibles, « Je veux rester dans la loi !» Le pauvre homme ne mangeait plus, ne dormait plus, vivait dans une affreuse et constante angoisse. Le moindre bruit, tant sa susceptibilité est exaspérée, lui causait des sursauts pénibles. Éveillé, il était la proie des cauchemars. Même en disant sa messe, en récitant son bréviaire, son imagination lui représentait des scènes atroces de martyrs, des cirques rouges, des bûchers. Pas une minute, il ne pouvait chasser ses suppliciantes images, goûter un peu de calme repos. Il eût souhaité être malade, mourir. Comme il avait abandonné le reste, il finit par abandonner l'empereur. Eh bien, soit, mais, oh, je vous en prie, ne prononçons pas son nom, n'écrivons pas l'empereur, ni l'empire, ni rien de semblable, mettons, le potentat, oh non, le tyran, oh non, non, mettons, on, cela dit tout, et cela ménage tout aussi, cela peut s'appliquer à n'importe qui, et ce parent, personne ne s'y méprendra. Mon Dieu, que va-t-il nous arriver? Et le préfet, et le ministre, et le conseil d'État, quel scandale! Mais nous nous ferons interdire, monsieur l'abbé. Nous nous ferons condamner à des peines honteuses. Jules gravement répondait. Jésus a été crucifié, monseigneur. S'est-il plaint? Enfin, le mandement, un beau dimanche, éclata comme une bombe dans les paroisses. Quelques curés, mieux avisés que les autres, se refusèrent à en donner lecture. Ce fut de la stupéfaction, de la consternation, de l'indignation. On crut que l'évêque était devenu fou. Il y avait en cet étrange document de littérature ecclésiastique, rédigé tout entier de la main de Jules, par phrases brèves, rapides, sifflantes, un accent de pamphlétaire si âpre, des attaques si directes contre les pouvoirs publics, et par-dessus tout cela, une telle revendication haineuse des droits de l'Église, un si ardent appel à la guerre religieuse, que les plus intolérants parmi les diocésains, sentant la cause impopulaire et peu soucieux de la défendre, se mirent à crier comme les autres et à demander justice. L'effervescence fut telle que, le soir même, des groupes d'ouvriers, de gamins et de petits bourgeois, brandissant des drapeaux tricolores et chantant la chanson de la reine Hortense, vinrent hurler autour de l'évêché, dont ils brisèrent les vitres à coups de pierre. De province, l'affaire eut vite gagné Paris, et de Paris, la France. En quelques jours, le mandement de l'abbé Jules avait pris les proportions d'un gros événement européen. Il mettait toutes les chancelleries en branle, tendait tous les regards vers Rome, mystérieuse et muette, déchaînait la presse. Et le pauvre évêque, si ennemi du bruit, occupait l'attention universelle. Dès la première minute de l'extraordinaire nouvelle, car les formalités légales de dépôt n'avaient pas été remplies, le préfet était parti pour Paris. Le ministre des cultes avait mandé l'évêque. Entre la France et le Saint-Siège, c'était un échange fiévreux de correspondances, d'explications, de rapports, une allée et venue continuelle de courriers de cabinet. Et le Conseil d'État, solennellement, délibérait. Dans les cafés, dans les cercles, dans les salons, chacun commentait la grave question du jour. On surprenait le soir des bouts de conversation entre les promeneurs sur les boulevards. C'est peut-être la guerre. Il paraît que c'est un enragé, cet évêque-là. Et Rome, que dit Rome? Des feuilles sérieuses et bien renseignées établirent l'affiliation de la Svec à des sociétés occultes, expliquèrent le fonctionnement du carbonarisme catholique dont il était un des plus dangereux chefs et qui menaçait la liberté des consciences et la paix du monde. Autour de son nom, de ses actes, se bâtirent les plus absurdes légendes. On fouilla dans sa vie privée avec acharnement. On rappela son procès à grand corps en fort de commentaires insultants. Et les journaux satiriques, illustrés, livrèrent à l'horreur des foules sa caricature coiffée de la sombre cagoule de Torquemada. Aucune voix ne s'éleva en sa faveur. Il fut désavoué hautement, durement, par la presse cléricale. Et tandis que le vieux bonhomme, étourdi, affolé, tout seul là-bas, dans une chambre d'hôtel, sentait son âme ployée, s'écraser sous le poids d'une souffrance infinie et d'une irréparable honte, Jules, exultant, triomphait. Il savourait avec une complète joie le résultat inespéré et prodigieux de sa mystification. Et fier de tout le bruit qu'il avait déchaîné, il agitait en l'air les feuillets du mandement, comme autrefois gamin la bouteille d'huile de foie de morue de sa sœur Athalie, et il dansait, il criait. Oh, oh non, oh c'est une bonne farce, oh, oh c'est une bonne farce, tralalala, tralala, mon Dieu que je m'amuse. Après un mois d'absence, un soir enfin, l'évêque furtivement rentra chez lui. Blâmé par le ministre, blâmé par Rome, il n'avait tenu de conserver son poste qu'à l'ingénuité de sa défense et aux accents touchants de son repentir. Il avait même dû écrire une lettre rendue publique où il regrettait ses erreurs, s'humiliait, demandait pardon. Quand il eut congédié le grand vicaire et le personnel de l'évêché venu pour saluer son retour, il dit à Jules simplement, d'une voix très douce, « Il faudra, monsieur l'abbé, que nous soyons plus sages à l'avenir, beaucoup plus sages, je l'ai promis. » Mais quand il vit le vieillard si courbé, si amaigri, si méconnaissable, qui ne lui adressait aucun reproche, et dont les yeux semblaient porter vers lui la douceur triste d'une prière, l'abbé éprouva au cœur un serrement violent. Et tout d'un coup, il se jeta à ses pieds sanglotant. « Pardon, c'est moi, monseigneur, moi ! Allons, allons !» « Mon cher enfant, » consola l'évêque, sur la joue pâle duquel roulaient de grosses larmes. « Allons, c'est fini maintenant. Ne pleurez pas, c'est passé. »